Gloire à Dieu. Nous allons prendre la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 14 à 15. C'est le frère Paul qui écrit 2 Corinthiens 5, 14. Il dit ceci: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je vais recommencer. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà notre texte principal d'aujourd'hui. C'est le frère Paul qui explique que sa motivation vient du fait qu'il a reçu l'amour de Jésus. Sa motivation vient de l'amour qu'il reçoit de Jésus-Christ. Il dit, l'amour de Jésus, l'amour de Christ lui met une pression. Voilà, c'est ça notre partage de ce matin. C'est la pression, la force de l'amour. Voilà, la pression pas négative. Voilà, c'est une pression qui est une force, mais c'est quand même une pression. Cette pression, elle s'appuyait sur Paul. Et Paul dit, c'est ce qui explique que je mène ma vie comme Christ lui-même, jusqu'à être prêt à mourir pour lui. Ma force, ma motivation vient de l'amour que j'ai reçu de lui et qui produit un amour en retour pour lui. Il dit, c'est ça ma motivation, c'est ça ma force, c'est ça notre partage. Quelle est ta motivation dans tout ce que tu fais? Nous venons proposer à chacun d'entre nous que ce soit l'amour qui soit notre motivation, l'amour qui soit notre force. Les autres choses peuvent nous donner des résultats, mais la fin de ces résultats-là, c'est toujours la négativité, c'est toujours la souffrance, c'est toujours des complications. La plus grande motivation, c'est l'amour. Dit comme ça, l'amour paraît simple et paraît parfois inutile pour obtenir des résultats, mais c'est faux. L'amour est plus fort que les autres sentiments, les autres paramètres de motivation qu'on pourrait citer comme la peur. Il y a des gens, quand ils ont peur, on dit il y a l'adrénaline, ça fait qu'ils obtiennent des résultats. Ils font des choses, ils ont des résultats. Il y en a, quand ils sont en colère, c'est là qu'ils sont forts et ils obtiennent des résultats. Et il y a d'autres, ben, c'est les ambitions. Ils veulent être les premiers. Et ça fait qu'en travaillant, ils obtiennent des résultats. Et aujourd'hui, nous voulons dire que toutes ces motivations-là, elles sont pas aussi efficaces que l'amour. Elles peuvent paraître fortes, mais non seulement elles ne dépassent pas l'amour en force, mais en plus, ces motivations produisent des conséquences destructrices dans la vie des humains. Nous voulons aujourd'hui prendre exemple sur Jésus lui-même et dire à chacun de nous, dans ta marche, dans ton fonctionnement, sers-toi de l'amour de Jésus comme force, comme pression, comme notre frère Paul dit, l'amour de Jésus en lui était tellement fort que ça l'a amené à servir Jésus à 100%. Nous voyons des gens dire qu'ils sont chrétiens, mais qui n'ont pas forcément les bonnes motivations. Voilà, nous connaissons l'apôtre Paul dit ceci, il y a des gens qui prêchent Jésus-Christ, mais ils prêchent pour des besoins de popularité, des besoins du ventre. Et c'est une réalité. Tout le monde ne prêche pas, ne fait pas le travail de Dieu avec la bonne motivation. Nous voulons aujourd'hui dire non seulement le travail de Dieu, mais n'importe quelle autre chose sur terre à partir d'aujourd'hui, décide-toi de bâtir tout avec la motivation de l'amour. Si tu bâtis tout avec la motivation de l'amour, tu vas bâtir des choses solides. Tu vas recevoir la vraie force, la vraie pression qui te fera avancer malgré les dangers. L'amour est plus fort que les autres motivations. Ça va te faire avancer. Ça va te faire obtenir des résultats. Donc, ne pensons pas que l'amour, c'est l'émotion des faibles. Non, l'amour est plus fort que les autres émotions, est plus fort que les autres motivations. C'est ça notre thème. Nous commençons par Jésus lui-même, dans Jean chapitre 13, au premier verset. Jean chapitre 13, premier verset. Jean 13, premier verset. Il est écrit ceci. Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le maximum à son amour. Ici, c'est écrit le comble, nous voulons que tout soit clair. Nous disons, mit le maximum à son amour pour eux. Je recommence. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il mit le maximum à son amour pour eux. Ce texte nous dit que pour aller à la croix, afin que nous soyons sauvés, Jésus a dû se remplir d'un amour total pour nous. Il ne nous a pas sauvés dans des motivations autre que l'amour. Il aurait pu nous sauver juste par envie de faire du mal au diable. Juste pour ça. Il aurait pu nous sauver juste dans une logique de conquérir ce qu'il avait perdu autrefois d'une certaine manière. Mais ce n'est pas ça qui a été sa motivation. Sa motivation, ça a été l'amour. Il mit le comble à son amour. Vous savez, à une certaine époque, nous, on faisait beaucoup de délivrances, on chassait beaucoup de mauvais esprits du corps des personnes. Et puis, à un certain moment, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que nous commencions à le faire comme un système. Voilà, c'est... Nous commencions à le faire comme une technique. Donc on se dit, ben, quand quelqu'un nous voit, ben, dès qu'on peut chasser les démons, on les chasse. C'était devenu comme un sport. Même si ça pouvait soulager certaines personnes, libérer, mais notre état, notre motivation n'était plus la bonne. Nous faisions comme une sorte de sport dans lequel nous devions nous retrouver vainqueurs. Nous trouver vainqueurs, c'était ça qui devenait petit à petit la motivation. Et le Saint-Esprit m'a parlé pour dire il faut faire les choses par amour. Parce que quelqu'un souffre, on veut le libérer des mauvais esprits, mais ce n'est pas pour se sentir un bon chrétien, ni juste être dans une logique de bagarre, de sport. Non, ce n'est pas bon. C'est pour nous dire que même quand on sert Dieu, on peut être animé de mauvaises motivations, prendre comme force des choses que Dieu ne nous recommande pas. Dieu ne veut pas que nous utilisions la peur comme force, ni la colère, ni une logique sportive, ni une logique numérique, une ambition de nombre. Dieu ne veut pas ces motivations-là. Il veut que notre motivation soit l'amour. Il dit dans sa parole, regardez le Fils de Dieu, regardez mon Fils Jésus. Il est écrit de lui, dans Jean, il est écrit ceci dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est le fruit de l'amour de Dieu pour les humains. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu qui fait que Jésus est venu nous sauver. La motivation, c'est l'amour. La motivation, ce n'est pas remporter une victoire contre face au diable. La motivation, ce n'est pas gagner des territoires. La motivation, c'est l'amour. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Et le frère Paul, dans 2 Corinthiens 5, 14, il nous explique que sa motivation à lui vient de l'amour. Quel amour qu'il a vu chez Jésus pour lui. Vous savez qui était Paul? Paul était un rabbin juif. C'était un maître, un docteur juif de la loi, un docteur des Écritures. C'est ce qu'était Paul. Il était un docteur. Et quand le christianisme a commencé, Paul faisait partie des grands persécuteurs du christianisme. Donc quand Jésus a été enlevé, les apôtres ont commencé à répandre la bonne nouvelle à Jérusalem, en Israël. Paul faisait partie des gens qui prenaient les chrétiens, qui les frappaient, qui les emprisonnaient. Il faisait partie de ces gens-là. Et un jour, sur le chemin de Damas, donc il s'en allait en Syrie pour prêcher la bonne nouvelle, non, pour plutôt arrêter les chrétiens qui étaient en Syrie. Donc, il partait dans un pays étranger pour chercher les chrétiens, les persécuter, les détruire, les emprisonner. Et en chemin, il rencontre une grande lumière. Une lumière qui éclate devant lui et qui le fait tomber de son cheval. Ça le rend directement aveugle. Quelqu'un dans la lumière lui parle. Et Paul dit, mais qui es-tu, Seigneur? C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous n'allons pas lire ça, je raconte l'histoire. La voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu ne saurais résister à mon appel. Donc, certaines personnes parfois persécutent les chrétiens parce qu'ils sont en train de refouler un appel qu'ils ont entendu de Dieu. Jésus les appelle. Il s'est enfoui en eux, dans leur subconscient. Et par réaction humaine, charnelle, ils résistent à ça en combattant la Bible et les chrétiens. C'est ce qu'était Paul. En réalité, il devait être déjà touché, mais il n'était pas d'accord puisque le christianisme paraissait anti-juif. Alors, il ne voulait pas céder. Alors, il s'est mis à combattre les chrétiens. Et ce jour-là, il rencontre, sur le chemin de Damas, il rencontre la grande lumière de Jésus. Mais maintenant, quand Jésus lui dit, « C'est moi, Jésus, que tu persécutes », lui, il a peur. Il se dit, « Mais attends, je pensais, parce que quand il lui avait posé la question, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il reconnaît la divinité de Jésus. Il reconnaît sa grandeur. Maintenant, la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a compris que quand il frappe les chrétiens, quand il les emprisonne, quand il combat les chrétiens, en réalité, c'est Jésus qu'il persécutait. Il a compris ça. Maintenant, quand tu te rends compte finalement que la personne que tu persécutais, c'est le fils du roi. c'est quand tu te rends compte qu'à l'école, le garçon que tu tapais, que tu injuriais, finalement son grand frère, quand on t'informe que c'est lui le parrain de la mafia de la ville. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu déménages. Hein? Parce que tu te rends compte que finalement, eh bien, la personne que tu persécutais, son grand frère peut te tuer en deux temps, trois mouvements. Et c'est ce que Paul a observé. Il a réalisé que finalement, en persécutant les chrétiens, il s'opposait à Dieu lui-même. Il a réalisé ça. Alors, il s'attendait à être massacré. Il s'attendait à être détruit. Mais Jésus lui dit, lève-toi. J'ai été choisi pour que tu sois mon serviteur. Cet amour pour Paul a traumatisé Paul. Voilà, c'est pourquoi c'est lui qui écrit là, l'amour de Jésus me presse. Vous savez, qu'est-ce qui explique que nous n'avons pas tous les mêmes parcours parce que nous ne subissons pas la même pression de l'amour de Jésus? Nous sommes, beaucoup de chrétiens sont baptisés, mais quand nous voyons les parcours, nous voyons que ce n'est pas la même chose parce que les motivations ne sont pas les mêmes. Il y en a qui deviennent chrétiens parce qu'ils ne veulent plus continuer avec le mal, tout simplement. Mais ça, même certains païens ne veulent pas de mal. Il y a beaucoup de païens qui ne prennent pas la drogue, qui ne font pas de bagarre, qui payent leurs impôts. Il y a beaucoup de païens qui ne croient pas en Dieu, mais qui se comportent moralement assez correctement. Mais la Bible nous montre que cela ne suffit pas pour être sauvé, parce que le péché est dans l'homme. Si quelqu'un est parfait, il ne doit pas mourir. Si quelqu'un est parfait, il ne doit pas vieillir. Le fait que chaque homme vieillit et meurt, c'est qu'il y a une imperfection en nous, c'est que le comportement ne peut pas nous sauver. Il faut autre chose. Et certains chrétiens travaillent dans une motivation de succès. Ils se disent, nous sommes dans le camp des meilleurs. Nous allons avoir des résultats, nous allons faire des miracles. Les motivations ne sont pas les mêmes. C'est ce qui explique les différents parcours. Aujourd'hui, nous voulons dire que notre motivation soit l'amour de Dieu. L'amour de Christ me presse. Et c'est ce que le frère Paul dit. L'amour de Jésus me presse, me donne une force, mais en même temps me pousse. En me donnant une force, ce n'est pas une pression qui fait peur. C'est une pression qui donne une force, qui peut t'amener jusqu'à donner ta vie pour lui. C'est ce que le frère Paul explique. Et ce jour-là, il a été traumatisé par l'amour de Dieu. Il s'attendait à ce que Jésus le détruise. Jésus dit non, mon amour est aussi valable pour toi. Je choisis de te sauver aujourd'hui. C'est ça l'amour de Dieu. Comprenons sa bien-aimée. C'est ce que nous dirons tout à l'heure. Seul l'amour peut construire des choses, peut bâtir des choses. Seul l'amour peut changer les cœurs. Nous devons construire dorénavant avec l'amour. C'est ça la motivation qui doit être la plus grande en nous. C'est l'amour dans tous nos actes. Je vais nous dire une chose. Si, par exemple, Jésus avait décidé de détruire Paul, qu'est-ce qu'il aurait gagné? Il aurait juste détruit un humain ce jour-là. Mais l'amour a permis de transformer un homme qui était méchant en un homme bon. Et quel homme bon! Vous savez que Paul a consacré toute sa vie à servir Jésus d'une manière irréprochable. Toute sa vie, il ne s'est même pas marié pour être disponible pour son maître Jésus. Il dit dans Philippiens 3, il a dit, j'ai tout lâché, j'ai tout abandonné à cause de Christ, mon sauveur. J'ai renoncé à tout. C'est ce qu'il dit dans Philippiens 3. J'ai renoncé à tout à cause de Christ, à cause de son amour, afin de lui être totalement disponible. Parce que lui-même a été touché par l'amour de Jésus. C'est ce que nous voulons partager. Que chacun de nous soit conscient de l'amour de Dieu pour nous. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix. Ne sois pas sauvé parce que tu as peur de l'enfer. Sois sauvé parce que Dieu t'aime. Tu te dis, je veux retrouver mon Créateur. Celui qui m'a créé, il veut me récupérer. C'est comme ça que ça crée un lien puissant. Quelqu'un peut paraître saint, vouloir refuser le mal, comme on voit dans le christianisme et dans d'autres religions. Il y a des gens qui paraissent comme ça, ils ne veulent pas le mal, ils ne veulent pas le péché, mais ils sont prêts à tuer quelqu'un pour leur religion. Que ce soit le christianisme ou autre. Mais est-ce que c'est ça, construire? Non, ça c'est détruire. Mais l'amour construit. L'amour va faire que tu donnes ta vie pour que les autres soient sauvés, alors que la religion te pousse à te suicider pour tuer d'autres. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Tu t'exploses pour tuer d'autres personnes. Toi, tu meurs et eux aussi, dans la méchanceté, dans la colère. Est-ce que ça avance l'humanité dans quoi? Dans rien du tout. La logique de donnant-donnant va te pousser à quoi? À divorcer. Parce que tu estimes que ce que tu donnes, tu ne reçois rien en retour. Conclusion, il n'y a pas justice, il n'y a pas égalité. Je coupe. Mais en coupant, tu as construit quoi? Rien du tout. Tu as détruit, tout simplement. Tu as compliqué les choses. Ça va faire deux familles avec des contraintes. Tu n'as rien construit. Tu as exercé ton individualisme, mais tu as construit quoi? Rien du tout. Aujourd'hui, nous voulons dire, construisons tout avec amour, par l'amour. Toute autre motivation nous perdra. Toute autre motivation nous perdra. Le frère Paul a dit, l'amour de Christ me presse. Et Paul est allé loin avec Jésus. Paul a connu la prison à plusieurs reprises. Il a connu toutes sortes de persécutions. Il détaille tout ça dans 1 Corinthiens 11 et dans 2 Corinthiens 6. Il explique toutes les persécutions qu'il a connues. Il a dit les trahisons, les jeûnes, les prisons, les coups de fouet, tout ça à cause du nom de Christ. Mais parce qu'il était animé de l'amour de Jésus. C'était ça qui faisait sa conversion. Combien de gens, parfois, ils se font baptiser, mais après quelques temps, on voit un refroidissement parce qu'il n'y a pas eu le contact avec l'amour de Dieu. Ou légèrement, et d'autres motivations ont pris le dessus. Le conformisme, ça peut être une motivation. Je veux faire comme tout le monde. Mais le conformisme ne t'aidera pas, parce qu'au moment où tout le monde va faire autre chose, tu changeras encore. Mais c'est quand tu as reçu l'amour de Dieu que ça change tout. L'amour de Dieu, c'est la plus grande force, c'est la plus grande motivation. Te convertir, être avec Dieu, parce que c'est ça qui est correct, ça ne suffit pas. Il faut réaliser l'amour de Dieu. Parce qu'il viendra un jour une pression d'ailleurs qui te fera croire que ce qui est correct, c'est autre chose. Tu changeras. Mais quelqu'un qui a connu l'amour de Dieu ne trouvera pas de remplacement. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de cet amour. Vous ne verrez nulle part ce que je suis en train de dire en matière d'amour. Quelqu'un que tu persécutes, lui décide de te sauver, de faire de toi un ami. Vous ne verrez ça nulle part. L'État, quand tu as fait le mal, l'État t'emprisonne. Quand tu as fait le mal, l'État te fait payer. Mais la Bible dit que Dieu nous a tant aimés au point qu'il a sacrifié son Fils pour nous. C'est-à-dire, alors que nous étions ennemis, j'aime ce Romains 5, 8. Hein, c'est écrit dans Romains 5, 8. Romains 5, 8. Il est écrit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On peut commencer à partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. On peut comprendre encore que pour un homme de bien, on se sacrifie. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des mauvais, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire qu'il a sacrifié son fils alors que nous étions ses ennemis. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Quelqu'un qui, alors que tu es son ennemi, il sacrifie son fils pour toi. Est-ce qu'on peut comprendre la dimension de cet amour? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour, le grand amour. Vous savez, nous avons étudié une histoire, nous avons lu une histoire vraie d'un missionnaire en Océanie. Il était dans une île, et dans cette île, il y avait plusieurs tribus qui se faisaient tout le temps la guerre. Et ce monsieur, il a amené l'évangile pour leur apporter le salut. Il leur a prêché l'évangile, mais il n'y avait pas de changement. Il leur disait que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, voyant que nous étions en guerre contre lui, il a donné son fils Jésus pour que nous comprenions son amour et que nous arrêtions la guerre contre lui, Dieu. Et il nous a donné la possibilité d'être sauvés avant qu'il ne juge l'humanité. Il a lui-même sacrifié son fils, mourir à notre place. Donc, ça dit que nous étions condamnés par ce Dieu-là à cause de nos péchés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, puisque ces gens-là ne peuvent pas se sauver tout seuls, je vais envoyer mon fils Jésus. Donc, Dieu n'a pas regardé à nos péchés, il a regardé à son amour pour nous. C'est ce qui s'est passé. Il faut que chacun de nous soit abreuvé de cet amour. Il a regardé à ça, il a dit, bon, dans ce cas, c'est mon fils qui ira, qui prendra leur part, qui va prendre leur péché, et c'est lui que je vais punir à leur place pour qu'eux, ils aient la possibilité d'être sauvés. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ a pris notre place pour être sauvé. Et maintenant, quand lui apporte ce message, il est tellement fort ce message qu'il est illogique. Vous voyez, l'amour est illogique. Il est tellement fort qu'il est illogique. Parce que l'être humain veut comprendre le message de Dieu par le raisonnement. Maintenant, quand on lui dit, mais c'est ton ennemi qui sacrifie son fils pour trouver la paix avec toi. Mais l'être humain dit, mais non, c'est impossible. Nous sommes, la justice veut qu'on ne fasse pas ça. Mais sauf que l'amour est plus fort que la justice. Et cet amour a dompté la justice de Dieu. L'amour de Dieu a dompté la propre justice de Dieu qui nous condamnait. Son amour l'a dompté en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix. Et le frère Paul a saisi ça. Ça a traumatisé sa vie. Normalement, tout chrétien devrait saisir ça. L'amour de Dieu. L'amour de Christ nous presse. Ce n'est pas une question de nombre. Chercher à gagner du nombre, non. C'est une question d'amour. Je donne ma vie pour que d'autres soient sauvés aussi, comme Jésus l'a fait pour moi. C'est ça la question. Et ce monsieur-là ne trouvait pas comment faire comprendre ce message à ses tribus autochtones. Mais Dieu lui est venu en aide. À un moment donné, deux tribus en ont eu marre de se faire la guerre. Alors, le chef de l'une des tribus, en voulant une paix solide avec la tribu ennemie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son dernier fils qui venait de naître. Il l'a confié au roi de la tribu ennemie pour l'élever. De sorte que ça devenait une garantie qu'il n'y aura jamais la guerre. Parce que s'ils se font la guerre, on tuera son fils. Donc, pour garantir la paix, il prend son fils, le dernier qui venait de naître, et dit, maintenant c'est le roi ennemi qui va l'élever. Donc son fils allait maintenant vivre chez son ennemi. Comme ça, ça donne l'assurance qu'il n'y aura jamais de guerre, puisque je donne mon fils chez vous. Donc je sais que au moment où nous commençons la guerre, c'est lui que vous allez commencer par tuer. Donc il n'y aura plus de guerre. C'est comme ça qu'il y a eu la paix entre les deux tribus. C'est comme ça que ces gens-là ont compris le message de l'évangile, parce que c'est exactement la même chose. C'est là que le missionnaire est venu les revoir pour dire, mais ce que vous venez de faire, mais c'est ce que je vous prêche depuis des mois. Je vous prêche que Dieu, voulant la paix avec les hommes, il a donné son fils. Mais ce n'est pas n'importe qui va bénéficier de cette paix. Ce sont les gens qui vont croire à ce que Dieu a fait qui vont bénéficier de cette paix. Ce sont les gens qui vont accepter, saisir Jésus, accepter l'amour de Dieu à travers Jésus pour créer la paix avec Dieu, devenir de nouvelles personnes. Ce sont ces gens-là qui bénéficieront du sacrifice du Fils. Mais l'amour est pour tous. Mais ce n'est pas forcé. L'amour, ça ne se force pas. C'est la peur qui peut forcer. C'est la violence qui peut forcer. Dieu n'est pas violent. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut impressionner pour obtenir des choses. Parce que s'il devait faire ça, Dieu peut envoyer un ange qui mesure 50 mètres de hauteur. Il va nous faire peur à nous tous, on va le suivre. Mais il n'a pas fait ça. Il veut un contrat conscient qu'on signe avec lui. Il ne veut pas s'imposer. C'est pourquoi il nous parle de son amour à travers son fils, Jésus. Jésus est mort à la croix afin que nos péchés soient pardonnés et afin que, par sa mort, nous ressuscitions en nouveauté de vie. C'est ça le baptême chez les chrétiens. Le baptême chez les chrétiens, c'est le fait de reconnaître que nos corps sont mauvais. Nos corps ont de mauvaises idées, de mauvaises pensées, de mauvaises pulsions et que nous voulons désormais devenir de nouvelles personnes et cela passe par la mort. C'est pourquoi on plonge quelqu'un totalement dans l'eau et par la résurrection, donc la personne sort de l'eau afin de comme une nouvelle personne par la résurrection de Jésus. C'est ça le baptême. Donc Dieu aujourd'hui nous a manifesté son amour à travers son Fils Jésus-Christ. Et il voudrait que nous tous nous saisissions cela pour être dans la paix avec lui en croyant en Jésus-Christ. C'est ça l'amour de Dieu. Et nous allons lire Matthieu 22, 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Alors, il est dit ceci, on peut commencer au verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est la question qu'on pose à Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voilà le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second, qui est une conséquence du premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en quelque sorte, bâtis tout dans l'amour. Tout ce que Jésus répond comme commandement, il dit, fonctionnez dans l'amour. Et tout. C'est ce qu'il veut dire. Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour les autres, fonctionnez dans l'amour. Que vous-même, vous avez reçu par mon sacrifice à la croix, fonctionner dans l'amour. Soyez motivés par l'amour dans tout ce que vous faites, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour les autres. C'est ça le commandement que Jésus-Christ nous laisse, parce qu'il connaît, la force de l'amour. L'amour, dans ce monde, ça paraît une affaire des faibles. C'est faux. L'amour rend fort. On a vu beaucoup de forts être des lâches. On a vu pendant le Covid, hein, des caïds du quartier allaient se faire vacciner très vite, alors que d'autres personnes qui étaient simples ont eu foi en Dieu. On a vu la limite de la violence. On a vu ça. L'amour est plus fort. On a vu quand le Covid a commencé. Moi, je me souviens d'une vidéo au Maroc, dans un hôpital. C'est la dame qui était malade qui filmait comment le médecin ouvrait la porte et regardait à distance, il n'osait pas approcher. C'est ça la réalité. Donc, toute sa théorie médicale est effacée par le Covid. Le médecin regardait à distance le malade. C'est ça la réalité. Mais l'amour d'un vrai médecin pouvait faire que le médecin s'approche du malade. C'est ça l'amour. L'amour est plus fort que toutes les autres motivations. Nous avons vu des gens motivés par l'argent. Mais à un moment donné, quand il a fallu prendre le risque de mourir, ils se sont dit non, je suis assez riche comme ça, je m'arrête là. Mais l'amour ne connaît pas de limite dans le sacrifice. Nous avons vu des gens motivés par la beauté de quelqu'un. Mais il est venu à un moment donné, ils ont dit non. Je ne peux pas continuer. Il me faut autre chose. Dernièrement, moi j'ai appris qu'il y a un grand footballeur, hein, un ancien ballon d'or. Sa femme l'a quitté parce qu'elle ne trouvait rien à lui reprocher. Voilà la raison. Vous voyez ? Donc, ballon d'or et grand sportif. Il était beau, fort, riche, mais on l'a quitté quand même. C'est pour nous dire que toutes les autres motivations ne tiennent pas face à l'amour. Mais pourtant, vous allez voir d'autres cas où on se dit, mais comment cette femme-là peut rester avec un tel homme? Il a fait la magie, il n'a pas fait la magie, c'est l'amour. L'amour est plus fort que toute autre motivation. Il y a des mères qui ont sacrifié leur vie pour un enfant handicapé. Vous allez dire tout ce que vous voulez, c'est son enfant. Voilà, c'est ça l'amour. L'amour dépasse les autres forces, les autres motivations. Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous donne la motivation de l'amour. C'est ça qui va trancher. L'amour n'a pas d'explication. C'est quelque chose sans explication. On ne peut pas l'expliquer. Comment expliquer que Dieu sacrifie son Fils pour nous? C'est l'amour. Ça n'a pas d'explication. C'est tout. C'est l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas non plus de logique mathématique. Lisons Luc 15, 1 à 10. Luc 15, 1 à 10. Luc 15, 1 à 10, c'est écrit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Les publicains, c'était les collecteurs d'impôts. Souvent, ils étaient malhonnêtes. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Jésus, là, il prend exemple sur les vrais bergers. Vous savez, les vrais bergers ne mangent pas leur troupeau, les animaux de leur troupeau, les vrais bergers. Nous ne parlons pas des industriels en Occident. Les vrais, dans les pays où vous entendez parler que ce peuple-là, c'est un peuple de bergers, c'est rare qu'ils mangent une bête de leur troupeau. C'est exceptionnellement qu'ils le font. Au fait, ils aiment tellement leur bétail que c'est devenu une richesse pour eux qu'ils soient là, comme des enfants. C'est ce qui explique l'amour que nous observons là. C'est-à-dire qu'il y a une brebis qui est perdue, le berger prend 99, il stationne quelque part, il va chercher la brebis perdue. C'est pas une logique de richesse là, ni de nombre. C'est vraiment une logique d'amour, parce que la logique de richesse et de nombre ferait qu'ils se disent, j'ai 99, il manque une, je ne vais pas prendre le risque. Aujourd'hui en Occident, la personne va évaluer le risque. Donc le transport d'aller chercher l'autre, ça va coûter ceci. Peut-être qu'il est tombé dans un fossé, je risque ma vie en y allant. Donc il va évaluer le risque et dire, ça ne vaut pas la peine. Pour une brebis, j'ai les 99. Là, il n'y a plus cette logique-là. L'amour n'a pas cette logique-là. Je pense que vous avez déjà vu que dans une famille, ils perdent un enfant. La maman perd juste un enfant. Et elle garde 5 enfants. Mais elle est triste comme elle les a perdus tous. Ça, c'est l'amour. Il n'y a pas de logique mathématique. Parce que nous, dans notre logique mathématique, on dirait, mais il y a encore 5 enfants. Mais pour cette maman-là, il n'y a pas de logique. Vous savez, vous ne pouvez pas mathématiser l'amour. C'est son enfant qui manque, c'est tout. Vous pouvez dire, mais il y a les 5 autres. Oui, c'est vrai. Mais son enfant manque. L'amour n'est pas, on ne peut pas mathématiser ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. L'amour est très fort. L'amour est puissant. L'amour sauve. Toutes les autres logiques peuvent avoir une certaine force, mais elles ont des limites. Elles peuvent avoir une certaine force, mais elles détruisent après. Tu peux commencer ta vie professionnelle avec une logique d'enrichissement et plus tard devenir mauvais, méchant. Tout simplement parce qu'il n'y a que l'argent qui compte pour toi. Tu peux commencer ta vie avec une logique d'être le premier dans ton domaine. Au début, ça te motive. À la fin, ça te détruira. Parce que tu vas faire plus d'heures que tout le monde. Il faudra après prendre de la cocaïne pour tenir. Vous avez appris que dans l'Assemblée nationale, il y a des dealers de cocaïne. Mais ces gens-là, ce sont des ambitieux qui ont voulu faire la politique pour être des grands hommes, pour être des gens importants. Mais dans cette politique-là, il y a des compromis à faire. Il y a des nuits à faire dans certains endroits. Du coup, pour tenir avec ces compromis-là et une vie alerte, ben, il faut prendre la cocaïne. Donc, il se retrouve. C'est pourquoi vous voyez que le commerce de la drogue continue très bien dans nos pays, puisque les chefs eux-mêmes, ils prennent ça. Tu as commencé, jeune garçon, 21 ans, ambitieux, mais propre. Tu finis sale. Sali par la cocaïne, sali par la corruption, parce que tu as eu comme force l'ambition d'être un grand. Mais aujourd'hui, nous voulons dire ceci. Avec l'amour, tu seras grand. mais tout en conservant un bon cœur. C'est ça. Avec l'amour, tu seras grand, mais tu iras aussi au ciel avec Jésus-Christ. Tu seras grand, parce que le monde ne s'arrête pas à ce que nous voyons aujourd'hui. Un jour, il y aura un jugement dernier qui classera les gens. Un jour, ceux qui auraient choisi l'amour de Dieu seront classés haut. Donc tu finiras grand, mais tout en ayant un bon cœur. Alors que celui qui prend d'autres motivations, le nombre, le succès, la logique de morale, ça c'est sale, c'est sale, c'est sale. Oui, d'accord, le péché est sale, mais ce n'est pas en constatant que c'est sale seulement qui te sauve. C'est en saisissant l'amour de Dieu, c'est ça qui te sauve. Parce que malgré tes constats de saleté, tu ne peux pas par toi-même vaincre ce péché-là. Parce qu'il habite déjà en nous. Le seul moyen de vaincre le péché, c'est de saisir l'amour de Dieu à travers Jésus, qui nous transforme, qui nous rend capable de vivre proprement. C'est-à-dire que quand tu as l'amour, tu ne veux pas faire du mal à l'autre. Hier, j'ai regardé un post de Telegram, ou bien j'ai oublié si c'était Telegram ou un autre réseau social, où il y a une jeune femme d'environ peut-être 26 ans qui est en train d'attaquer le monde entier. Il dit, nous sommes là, forts à attaquer les politiciens pédophiles, les riches pédophiles, mais finalement toute l'humanité est pédophile. Parce que regardez cette fille-là, elle a montré une fille de 12 ans qui, c'est où qu'on paye les gens pour les regarder, voilà. Donc, dans un réseau social, on paye pour regarder les femmes dénudées. Et elle a posé la question à cette fille-là, tu gagnes combien par rapport à toutes les personnes qui te regardent? Elle a dit, je gagne 54 000 dollars par mois. Et là, la fille de 24 ans, 26 ans, il prend les gens qui regardent la vidéo à témoin, il dit, mais regardez cette fille-là. Elle ressemble à quelqu'un de 12 ans. Comment vous comprenez que les gens la regardent? Une fille de 12 ans. Vous voyez le péché. Le péché est puissant. Tu peux critiquer les politiciens pédophiles à gauche, à droite. Tu critiques les gens. Abstain, tu critiques. Mais toi-même, tu vas regarder dans un réseau social une fille de 12 ans. Toi aussi, tu es pédophile. Tu vois bien que le fait de constater le mal ne te donne pas forcément la force de le vaincre. Mais quand tu es rempli d'amour, quand tu regardes cette fille-là, tu vois ta petite sœur, ça te calme. Tu sais que je ne peux pas, moi, vouloir regarder la nudité de cette fille-là. C'est pas, l'amour te donne la capacité de vaincre le péché plus que le constat de saleté. Plus que le constat de saleté. Une fois, il a été question d'un pasteur aux États-Unis, un pasteur d'une église de 20 000 personnes. Hein. Ce monsieur-là, quand il passait à la télé, il frappait les homosexuels comme il faut dans ses discours. C'est sale, c'est pas bon l'homosexualité. J'ai oublié son nom. Jusqu'à ce que, un jour, un monsieur tombe sur ses discours à la télé. Oh. Le monsieur dit, mais c'est cet homme qui parle comme ça? Mais c'est mon client. Donc lui-même, il allait dans des hôtels avec un homosexuel. En plus, un prostitué, si on peut dire, je ne sais pas si ça se dit, un homme prostitué. Mais lui, quand il passait à la télé, quand on lui donnait le micro, il fustigeait les homosexuels. Maintenant, le client, le vendeur l'a reconnu. Oh, mais c'est cet homme qui parle comme ça. Il a sorti le scandale. Le monsieur a été obligé de démissionner. Voyez, ce n'est pas constater un mal qui te donnera la force de le vaincre. Ce n'est pas te dire c'est sale qui te donnera la force de vaincre. C'est l'amour de Jésus. Quand tu as l'amour de Dieu, tu te diras non, mais c'est pas bon de faire ça parce que ça nuit à l'autre. C'est pourquoi Jésus a dit. Ce commandement-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, c'est plus grand que tous les autres commandements. C'est plus grand. C'est ça qui compte. Tu te diras, non, 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 Je ne veux pas faire ça, ça va faire mal à mes parents. Je ne veux pas faire telle chose, ça va faire du mal à mes enfants. L'amour est plus fort que tout. Ça va faire du mal à Dieu. J'aime Dieu, je ne veux pas lui faire du mal. Changeons de motivation. Voyez combien quelqu'un met 99 brebis à égalité avec une brebis. À égalité, puisque l'amour, c'est ça. C'est infini. Nous finissons avec le texte suivant. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Moi, je me souviens d'une fois quand nous étions des étudiants au Maroc, j'étais tombé sur... nous recevions des lettres d'encouragement. Bon, ils devaient les envoyer à quiconque voulait. Nous aussi, on s'était inscrits. C'était un serviteur de Dieu dont j'étais le nom en France. Nous recevions ces lettres d'édification aux églises du monde entier... ces lettres avec des explications sur la parole, des témoignages encourageants. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pourriez, puisque je sentais en lui l'élan missionnaire, donc il ne se contentait pas d'envoyer des lettres, il voyageait aussi parfois. Et nous lui avons écrit une lettre disant, est-ce qu'il pourrait nous visiter pour nous apporter la parole au Maroc ? Vous connaissez la réponse ? Vous êtes combien ? Quel est votre nombre ? Quand j'ai dit 20, je n'ai plus eu de réponse. Voilà. Le monsieur qui prêchait l'amour dans ses lettres, qui nous édifiait, quand je lui ai dit que nous étions au nombre d'environ 20, il n'a pas donné suite. Parce que ces gens-là n'ont qu'une vraie motivation, c'est le nombre, c'est la grandeur, c'est pas l'amour. Mais là, nous avons lu que quelqu'un avait 100 brebis, une qui s'est perdue, il a laissé 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Un vrai pasteur va se déplacer pour une seule âme. Même s'il faut prendre un vol de 5000 kilomètres, il va le faire. Parce qu'il est animé du même amour que son Seigneur. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Même si tu étais seul, il aurait donné sa vie pour toi. Il n'est pas venu pour sauver beaucoup, il est venu pour sauver chacun d'entre nous. Et si ça fait beaucoup, mais lui, il s'intéresse à chacun d'entre nous individuellement. Tu peux dire aujourd'hui que Jésus, c'est pour toi individuellement. Et chacun peut le dire. Tu as une valeur incommensurable. Qu'est-ce qui te donne cette valeur ? L'amour de Dieu pour toi. Il nous arrive dans la maison des polémiques. Quelqu'un, il a jeté un truc à toi dans la poubelle. On a quand même dit, mais pourquoi tu l'as fait ? Mais c'est rien du tout. Mais c'est rien du tout pour toi. Mais pour la personne, pour ton frère, pour ton cousin, pour ta sœur, ce bibelot-là avait une importance. Donc, d'où vient l'importance des choses ? L'amour qu'on a pour les choses. Les choses en elles-mêmes n'ont aucune importance. C'est l'amour qu'on porte pour ces choses qui leur donne une importance. Tu vois des vieilles baskets, toi tu te dis, mais ça fait longtemps ça, allez. On fait le nettoyage à la maison, tu jettes. Quand le propriétaire vient, il dit, mais où sont mes... Mais c'est vieux, ça fait... Mais non. Pour moi, c'est important. Donc, la chose a la valeur par l'amour que quelqu'un a mis dessus. C'est ça notre valeur. Dieu nous aime tellement que nous devenons plus que de l'or pour lui. C'est ça. C'est ça qui explique qu'il a donné son fils. Parce que son amour a fait de nous quelque chose de précieux tellement qu'il pouvait même donner son fils pour nous sauver. Mais comment résister à un tel amour ? C'est cela. Notre prédication, mais en même temps, nous voulons parler à tous ceux qui travaillent pour Dieu. bâtissez dans la logique de l'amour. 1 Corinthiens 13 va nous le dire clairement. Ne bâtissez pas dans la logique du nombre. Ne bâtissez pas dans la logique du succès. Bâtissez dans la logique de l'amour. Même si la logique du succès, ça porte des résultats. La logique du nombre, ça porte des résultats puisqu'il y a des mouvements qui sont basés sur le nombre. Ils grandissent. Les mouvements qui sont basés sur le succès, ils grandissent. Mais ça corrompt l'âme. Ça détruit le cœur. Et tôt ou tard, ces choses-là se détruiront par les semences de corruption qu'ils ont laissées entrer. Nous lisons 1 Corinthiens 13. « Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour qui est la plus grande de ces choses. Et je veux, la parole d'aujourd'hui c'était quoi? Cet amour est également une force. C'est une pression qui va nous permettre de plaire à Dieu jusqu'au bout. C'est une pression, c'est une force qui va nous permettre, qui va nous aider à aimer les autres et à sacrifier, s'il le faut, notre propre vie. C'est l'amour de Dieu. Voilà, c'est l'amour de Dieu qui a animé et qui anime encore, même s'ils sont peu à notre époque, les missionnaires de Dieu qui changent de pays, qui lâchent tout pour aller dans des endroits où les gens n'ont pas le salut, afin de leur apporter l'évangile. C'est des gens qui sont animés de l'amour de Dieu. Ils ont compris l'amour de Dieu pour eux-mêmes. Ils se disent, Dieu doit aimer certainement ces tribus-là, ces humains-là, ces mafieux. Il doit les aimer comme il m'a aimé, puisque je suis un humain, je ne suis pas son cousin. Donc s'il m'a aimé au point de sacrifier Jésus pour moi, il aime aussi les dealers au point de sacrifier Jésus pour eux. Alors moi, je vais me diriger dans la prière, jusqu'à ce que Dieu me donne le feu vert pour commencer un travail avec les dealers, il faut que je leur apporte la bonne nouvelle, que Jésus-Christ peut sauver tout homme. Bien-aimé, ne règle pas les problèmes familiaux avec la colère. Règle les problèmes de famille avec la prière et l'amour. C'est ça. Le reste, ça détruira finalement. Mais l'amour construit. C'est ça la réalité. Ne règle pas le problème au travail avec une logique. On me doit ceci. Le règlement dit cela. Règle ça avec la logique de l'amour. Les gens changeront autour de toi parce que toi, tu vas être une source d'amour pour l'endroit. Et ça construira, ça ne détruira pas. Tu peux faire un procès à quelqu'un, après ce procès, il se suicide. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait du tout. Tu as fait du mal au contraire. Mais lorsque tu manifestes l'amour de Dieu, tu peux sauver une âme. Et cette âme devient une aide pour toi plus tard. l'amour construit. Le reste peut sembler donner des résultats, mais ça finit par détruire. C'est très important de saisir ces choses. J'aime à parler de cet exemple de Jackie Pullinger, qui était missionnaire à Hong Kong. Une belle fille de 23 ans, une Anglaise, elle quitte l'Angleterre en obéissant à la voix de Dieu pour être un instrument entre les mains de Dieu à Hong Kong. Elle, elle ne savait pas que c'était à Hong Kong. Elle avait entendu la voix de Dieu qui lui avait dit « Va ». Elle est partie voir un pasteur. Le pasteur lui a dit « Je ne comprends pas qu'est-ce que Dieu veut dire par là ». Elle a vu un deuxième pasteur qui lui a dit « Ah, mais je reconnais cette voix-là, puisque Abraham aussi avait entendu la même chose. » On lui a dit d'aller là où Dieu, d'aller. Et le pasteur lui a dit « On va faire ceci. Tu vas dire à Dieu que tu vas prendre le billet le plus long. » À l'époque, c'était de Londres jusqu'à l'extrême est-orient de la Chine, donc jusque vers Macao, là-bas. Le billet de bateau, bien sûr, dans les années 60. Elle a pris ce billet-là, elle a dit à Dieu, je m'arrêterai là où tu me diras de sortir. Et arrivé à l'escale de Hong Kong, la même voix lui dit, tu peux sortir d'ici. Vous voyez, hein, une fille avait combien de dollars? Je crois 200 dollars seulement. Donc vous vous rendez compte de la fragilité, de la vulnérabilité d'une fille. 23 ans, 200 dollars, mais elle dit, Dieu aime les gens vers qui il m'envoie. Je dois y aller. S'il faut donner ma vie, je la donnerai parce que Jésus l'a donnée pour moi aussi. Elle sort de Hong Kong, elle n'avait même pas de visa. Mais à la frontière, quelqu'un vient le délivrer, elle entre quand même. La délivrer, elle entre quand même. Où habiter, elle ne savait pas. Avec 200 dollars. Mais le Saint-Esprit, Dieu qui l'a envoyé, l'a conduite finalement à s'installer dans la cité interdite. Vous savez, la cité interdite, c'est un quartier plus voyou que le quartier le plus voyou de France. Donc où la police ne va même pas à Hong Kong. Mais une Anglaise de 23 ans y élit domicile. Vous vous dites, mais on va la tuer, on va la violer. Non, elle était accompagnée de la gloire de Dieu. Personne n'a jamais touché même à un seul cheveu de Jackie Pullinger. Même pas un seul. Elle a parlé de l'évangile aux prostituées dans la cité interdite, à ceux qui étaient esclaves de la drogue. Elle a travaillé. Moi, quand j'ai lu son livre, il y avait sa photo à 40 ans, elle n'était toujours pas mariée. Elle a consacré sa vie de 23 ans, 40 ans, sans se marier, parce que Jésus a donné aussi sa vie pour elle. Mais si quelqu'un à 40 ans, il était déjà belle, à 23 ans, il était comment? Mais elle n'a pas regardé à tout ça, par amour pour tous ses perdus. Et un jour, elle est allée visiter un chef mafieux en prison, pour lui parler encore de l'évangile, pour lui proposer le salut en Jésus. Elle lui a parlé une énième fois, parce qu'elle lui avait déjà parlé quand il était libre. Maintenant, elle le visite en prison. Elle lui parle encore, dit, mais écoute, voilà le chemin que tu prends. Ça mène à la destruction, tu arrives à la prison. Pourquoi tu ne saisis pas l'amour de Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Créateur. Il veut te sauver pour t'amener au ciel, être éternellement dans la félicité. Pourquoi tu résistes? Le monsieur a résisté encore une énième fois. Il a dit, je n'en veux pas. Et quelques années plus tard, au détour d'un chemin, elle rencontre ce monsieur. Il dit, mais comment ça va? Il dit, je suis devenu pasteur. Elle dit, ah bon? Comment tu es devenu pasteur? Moi, je t'ai laissé en prison, toujours contre Jésus. Il a dit, mais ce jour-là, quand tu es reparti, j'ai réfléchi sur ce qui t'animait, toi. Pourquoi, alors que tu es une Anglaise, tu es bien dans ton pays, tu es venue dans ce lieu pourri, tu es venue me visiter dans un endroit pourri, et ce qui m'a choqué, c'est ta tristesse quand j'ai dit non à l'amour de Dieu. Je me suis dit, mais pourquoi tu es triste pour moi? Pourquoi tu peux aimer un homme mauvais comme moi? Et cette réflexion m'a amené jusqu'à connaître Jésus, qui est la source de ton amour. Et moi aussi, je me suis donné à lui, entre-temps, et aujourd'hui, je le sers aussi. Gloire à Jésus. C'est ce qu'il nous propose aujourd'hui, de bâtir nos vies selon son amour, non pas selon les ambitions, selon la logique du nombre, selon la logique du succès, selon la logique de la peur. On veut faire peur aux gens pour obtenir des résultats. On veut créer des émotions pour obtenir des résultats. Non, on doit bâtir tout selon l'amour de Dieu. Et c'est Dieu qui produira la paix, les miracles et le reste. Et le nombre, s'il le faut, mais ce n'est pas le nombre qui est le problème. C'est la qualité, c'est le salut de chaque individu qui compte. C'est ça qui compte. Et en bâtissant avec l'amour, nos cœurs seront gardés dans l'amour et dans la joie. Et un jour, nous nous retrouvons aux côtés de Jésus au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous venons prier que ton amour nous saisisse maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons désormais fonctionner dans l'amour, Seigneur. Nous voulons discerner ton amour pour nous et fonctionner dans l'amour. L'amour de Dieu. Alléluia, je veux prier. Je te demande seulement une chose. Dispose-toi à recevoir l'amour de Dieu. Tu te dis, je veux recevoir cet amour. Je veux suivre ce Dieu-là. Et l'amour de Dieu vient à venir dans ton cœur. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus-Christ afin que ton amour inonde tous les cœurs ici présents, localement et à travers le visionnage, Seigneur. Que ton esprit se manifeste pour remplir chacun de ton amour et que les chaînes du passé soient brisées, les chaînes de la peur, les chaînes de l'égoïsme, les chaînes de l'orgueil soient brisées par ton amour. Que ton amour, Seigneur, enlève toutes ces choses. Enlève les liens diaboliques au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que ceux qui doivent pardonner aux uns aux autres le fassent. Ceux qui doivent recevoir, demander pardon aussi le fassent à cause de ton amour. Qu'il y ait un changement dans l'espérance, puisque l'amour produit la force, ça produit l'espérance, ça produit ta gloire, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Et surtout, ça produit la paix. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.